Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre Bruno Nonnet pour ses télescopages, il est presque de Roland-Garros. Notre invité c'est le chanteur Dave, on parle de son coffret Dave et Patrick Loiseau. Noce d'or, 50 ans de chansons, on parlera aussi de lui parce qu'il revient de loin, il va nous raconter ça. Lisa Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame, tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant la célébrité. Et puis Marc-Antoine Lebret sera avec nous pour clore l'émission. Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour Philippe.
Et bonjour Bruno Denet.
Bonjour Philippe.
Tous les jours Bruno, vous scrutez ici les temps forts de l'actualité médiatique. Et hier, vous avez été frappé par deux séquences qui se sont pourtant déroulées sur deux terrains extrêmement différents.
Oui, télescopage ce matin Philippe entre l'émotion que seul le sport peut nous procurer et un surprenant commentaire politique, je vous raconte. La toute première séquence s'est déroulée hier matin sur le canal 27 de France Info. Jordan Bardella, président par intérim du Rassemblement National, était l'invité de la matinale et questionné sur la prolongation du contrat de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, il a dit ceci.
J'ai beaucoup suivi le parcours de Kylian Mbappé, je trouve que c'est un modèle d'assimilation.
Kylian Mbappé est un modèle d'assimilation. Ça alors, première nouvelle, avant de préciser pour qui ?
Notamment pour la jeunesse issue de l'immigration, pour la jeunesse de banlieue.
Alors l'intervieweuse de France Info, Salia Braclia, lui a très opportunément fait remarquer un petit détail.
Il est né en France, hein, Kylian.
Oui. Oui, mais je trouve que c'est un...
Donc il n'y a pas d'histoire d'assimilation. Oui.
Mais le ténor du Rassemblement National l'a balayé d'un revers de la main, objectant que...
Oui, mais sa mère est sénégalaise.
Bon, alors le hic, c'est que la mère de Kylian Mbappé n'est pas sénégalaise. Elle a passé la plus grande partie de sa vie à Bondy, en région parisienne, et elle est d'origine algérienne. Bref, étant considéré que Kylian Mbappé est bel et bien français, et que le mot « assimilation » désigne, d'après le petit Robert que je me suis empressé de consulter, le fait de gommer une différence, la seule différence visible entre Kylian Mbappé et Jordan Bardella, c'est que Kylian Mbappé est noir alors que Jordan Bardella est blanc. Bien. Fin de la première séquence. La seconde, maintenant, s'est déroulée hier après-midi sur un court de tennis de Roland-Garros et elle a été retransmise en direct sur France 2.
Un moment de légende ici à Roland-Garros. Le très probable dernier service de Joe Wilfried Tsonga en pleurs sur cette première balle de match. L'émotion est immense.
Après 18 ans de carrière, 18 ans passés au sommet du tennis mondial, Joe Wilfried Tsonga a livré sa toute dernière bataille.
Vous devez voir défiler toute votre carrière dans la tête là, à ce moment-là.
Victime d'une blessure à l'épaule, en plein milieu du match, il n'a pas pu défendre ses chances jusqu'au bout et la partie s'est donc achevée dans un moment d'intense émotion comme seul le sport et la communication à laquelle il nous invite peut offrir.
Il ne sait plus trop où il habite là, Joe Wilfried Tsonga. Il faut profiter de ces instants, Joe. La standing ovation du cours Philippe Châtrier, tout le monde debout pour rendre hommage à ce champion.
Joe Wilfried Tsonga était en larmes, submergé par le chagrin et la nostalgie, et nous qui le regardions derrière notre télévision aussi.
Il y a tellement de souvenirs, il a accompagné nos vies pendant 18 ans, Joe Wilfried Tsonga.
Alors vous allez me dire, Philippe, mais quel rapport y a-t-il, mon petit bonhomme, avec les propos de Jordan Bardella ? Eh bien, j'y arrive. Figurez-vous qu'au terme du match, Joe Wilfried Tsonga a été invité à s'exprimer, à revenir sur sa formidable carrière. Après avoir séché ses larmes, il a donc évoqué l'enfant qu'il avait été.
Joe, le petit gars qui voulait devenir tennisman.
Et puis, il a tenu à aborder une question qui nous intéresse beaucoup ici, la question des médias.
C'est vrai que j'ai pas très très bien vécu le jeu médiatique.
Et ce qu'il a souligné au soir de son formidable parcours sportif, c'est la façon dont les médias ont si régulièrement parlé de lui.
J'étais un jour suisse, un jour fils de père congolais, un jour manceau. Un jour noir, un jour blanc.
J'étais noir. En d'autres termes, un immense champion qui a été classé 5e joueur mondial, qui a remporté 169 matchs dans des tournois du Grand Chelem, atteint la finale de l'Open d'Australie, disputé deux demi-finales à Roland-Garros et empoché plus de 409 millions de dollars en tournoi, a tenu à dire publiquement hier que ce dont il a le plus souffert, c'est d'avoir été tout au long de sa carrière si régulièrement renvoyé à sa couleur de peau. On espère donc que le jeune zélateur de l'assimilation, Bardella de ses étranges convictions concernant l'intégration de tous ceux dont l'unique différence avec lui tient à leur couleur, aura l'émotion aidant, bien assimilé enfin, le très émouvant message de Joe Wilfried Tsonga.
Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain. Je me tourne vers vous Nicolas Caro, le programme de votre indispensable. On va parler littérature ce matin aux alentours de 10h30, mais avec qui, avec quoi ?
Avec un livre de poche, c'est la saison pour l'été et tout, c'est pratique. Et c'est Florida d'Olivier Bourdeau. Vous vous souvenez, Bojangles.
En attendant Bojangles, voilà. Qui était un succès.
Ça, c'est son troisième roman qui est maintenant en poche.
On en parle tout à l'heure. Dans un instant, on sera, il est encore mieux, c'est ce qui nous intéresse encore davantage. On sera avec le chanteur d'avant, Dave, il va nous dire s'il est encore mieux. On parle de son nouveau coffret, c'est un quadruple album de ses chansons. Et on va tout de suite entendre ce qui est peut-être son plus grand standard, c'est Vanina sur Europe 1.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Vanina, est-ce que je dois le dire, c'était Dave sur Europe 1. Je ne dis pas c'était, c'est Dave parce qu'il est avec nous.
Oui.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Dave.
Bonjour.
Chanteur des tubes énormes, Vanina qu'on vient d'entendre, du côté de chez Swan, est-ce par hasard, danser maintenant, aussi un animateur télé, on est une émission média également, du côté de chez Dave, l'Eurovision. Votre actu, c'est ce quadruple album, il s'appelle Noce d'or, avec Patrick Loiseau, 50 ans de chansons, c'est un album, il y a de la musique, il y a aussi plein de photos avec l'école Pelle à Tarte et le style années 70 qui est absolument
c'est Renaud, le chanteur, en voyant cette pochette, a dit que le temps est cruel.
Je suis pas d'accord parce qu'il y a une tendresse et une nostalgie et parfois presque de l'humour. Alors, je dois dire, première question, je suis obligé de vous demander ça. Comment ça va? Franchement, on a eu peur pour vous.
J'ai pas eu peur, je me souviens strictement de rien, mais c'est vrai que...
Je vais raconter ce qui s'est passé. Oui. Le 25 janvier, vous faites une grosse chute dans votre maison à Paris. Vous avez passé plusieurs jours dans le coma. Ouais. Racontez l'avant, l'après, la suite.
J'ai resté, moi, dans deux hôpitaux. Un que je ne connaissais pas, qui était à Percy, qui était un hôpital militaire. L'autre aussi, d'ailleurs, invalide, était aussi qui habitait Place Vauban. J'avais vu sur les invalides, je ne pensais pas y passer trois semaines dans un lit. Mais surtout, je ne me souviens de rien. Il paraît que c'est tout à fait normal. Ça pourrait revenir avec des années, mais comme il ne m'en reste plus beaucoup, puisque j'ai 70, ça me fait penser. Juste avant, dans un concert avant le confinement, donc il y a plus de deux ans, j'ai dit au public, vous et moi, on a quelque chose en commun, on ne peut plus mourir jeune. Ça n'a pas plu du tout.
Je retire. Mais oui, plus. On ne se moque pas de l'âge du public.
Ça, je me parle en cas de moi-même aussi.
Vous dites, je me suis souvenu de rien. Un blackout qui a duré combien de temps?
Ah ben... J'ai engueulé, notamment Michel Haber, qui est celui le garçon qui s'occupe de mes concerts. J'ai dit, tu auras pu venir. Il était venu. Marc-Louis Fogel, qui était un bon ami. Daniel Auteuil, j'ai aussi des amis non connus, mais la chute le connu, c'est plus heureux pour les auditeurs. Ils sont tous venus et je me souviens de personne. C'est terrible, c'est terrible. Et encore aujourd'hui, j'ai du mal. Cette nuit, j'ai cherché, vers 4 heures, je me suis réveillé, j'ai cherché les prénoms de Ruquier.
Laurent, je crois.
Vous avez gagné.
Voilà.
Mais je n'ai pas trouvé. Mais c'est dingue. Non, ça m'a fait du tort. Vraiment. Le pire, pour moi, il y a deux choses que je déteste. C'est d'une part, je n'ai plus ni goût ni odorat, comme les gens qui ont eu le Covid que je n'ai pas eu. Mais ça, quand j'adore manger, j'adore faire la cuisine, je ne goûte plus rien. Donc, ce n'est pas drôle. Et puis, je n'ai pas le droit de conduire à cause de l'épilepsie que je ne pense pas avoir non plus.
Patrick, votre mari a raconté, c'était à Paris Match le 24 mars. Patrick raconte, quand je contacte le service de réanimation, on m'annonce froidement, votre mari, donc Dave, a fait deux crises d'épilepsie pendant son transfert. Il est tombé dans le coma. Son état se détériore. On ne sait pas encore si on va pouvoir le sauver.
Ils sont trompés.
Et heureusement.
Alors, je suis là.
Alors, ils sont trompés. Vous avez lu le papier de France Dimanche? Non. France Dimanche dit, Dave, il n'a plus goût à rien. Alors, quand vous ouvrez, en fait, vous apprenez que vous avez perdu le goût et l'odorat. Mais il n'a plus goût à rien. Et en revanche, ils disent que vous avez fait un AVC.
Ça, c'est pas
vrai.
Non. Ça, heureusement pour moi, il paraît que quand je suis pareil, si c'est à cause d'un AVC, qu'on ne se relève pas. Donc, non. Là, c'était une chute parce que je fais tout trop vite. Aux demoiselles qui nous écoutent, je fais tout trop vite. Ce n'est pas la peine.
Ouais.
Donc là, non. Je suis tombé parce qu'en effet, je suis couru sur l'escalier, je suis tombé en arrière et après, je ne sais plus ce qui s'est passé.
Qu'est-ce que ça a changé pour vous, pour votre vision du monde? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie?
Ça m'a mis en face de la mort quand même, quand j'ai recommencé à réfléchir un petit peu. Et la mort, je l'ai rencontrée, comme beaucoup de gens de ma génération, dans les années 80, à cause de l'arrivée du sida, évidemment. J'ai perdu beaucoup d'amis. Et la mort fait partie de ma vie, c'est pas très gai comme sujet, mais me fait pas peur. Bon, on va mourir. Mm-hmm. J'ai dit ça, mais en même temps, quand je suis dans l'avion, que ça bouge, je me fais caca dessus. Donc, j'ai quand même un petit peu peur. Mais intellectuellement, je n'ai pas peur de la mort. Mais c'est vrai que de le frôler comme ça, c'est une drôle de chose. Et puis, je n'ai pas du tout aimé vivre à l'hôpital. Mais non, pas du tout.
Alors là, vous dites que vous n'avez pas le droit de conduire. Et les concerts? Parce que vous disiez, ce que j'attends le plus, c'est de pouvoir remonter sur scène.
Ah oui, ça.
Alors, vous en êtes où de ce point de vue-là?
Ah ben, c'est reparti. J'en ai fait une, déjà.
Alors, c'était comment?
Moi, j'ai eu très peur. Moi, évidemment.
Vous aviez peur d'oublier les textes?
Ouais, j'ai peur.
Alors, vous aviez un prompteur ou alors vous n'avez pas oublié les textes?
Non.
Vous êtes tellement populaire que le public chante à votre place.
Ça aide, c'est sûr. Mais là, c'était ce qu'on appelle un gala privé, c'est-à-dire que les gens qui étaient là n'étaient pas là pour moi. J'étais une surprise. Mm-hmm. Quand on est une surprise, c'est amusant, mais en même temps, sur les 100% des gens, il y a peut-être 20% qui vous détestent et 80% mm-hmm. qui s'en foutent ou pas, j'en sais rien. Mais là, ils se sont levés au moment de chanter. J'ai chanté une chanson qui s'appelle La Décision, qui d'après un air de Brahms, c'est pas un gros tube, mais c'est là où les gens se lèvent pour me faire une standing ovation, comme on dit en vieux français, et ils l'ont fait. Et le meilleur moment, c'est quand j'ai vu sur mon compte en banque que l'argent est arrivé. Ça, c'est très hollandais comme réflexion.
Vous n'avez pas perdu le sens de l'humour. Vous étiez comme ça déjà avant. Vous aimiez bien l'argent quand vous étiez petit?
Non. C'est en lisant une biographie de Sophie de Lorraine, l'italienne. Mm-hmm.
Sophie.
Merci. Le nom, c'est terrible. Hein. Non, je ne blague pas. Hein, c'est horrible. Et j'ai compris que si on aime l'argent, c'est parce qu'on veut pouvoir s'occuper des autres.
Comment était Dave quand il était petit? C'est le portrait pré-fame, ou pas petit, mais avant d'être célèbre, de Lisa Marie Marquez. Culture Média continue sur Europe
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de chanteur Dave. On parle de son coffret, 50 ans de chansons Noce d'or. Dave et Patrick Loiseau, son mari et son parolier. On va mieux vous connaître, Dave, avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. C'est le portrait de notre célébrité, mais avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie.
Bonjour Philippe, bonjour Dave. Vous êtes entré dans le cœur des Français avec votre musique il y a plus de 50 ans et vous ne l'avez jamais quittée. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Dave, ou plutôt Wouter Levenbar. Je l'ai bien prononcé, hein, vous pouvez me reprendre sur mon accent.
Comment on dit?
Wouter Levenbar, comment on l'a dit?
Vous êtes né à Amsterdam, où vous passez vos premières années, avant de déménager avec votre famille à 30 km de la capitale, dans le village de Blaricum.
Blaricum,
un décor.
Bah, tu vas l'engueuler.
L'accent néerlandais, c'est pas...
Je précise, ils ont fait des répètes avant, pendant la pause.
Et non, j'ai pas retenu Blaricum. Un décor idyllique où vous grandissez. Vous aimez alors faire du vélo, jouer au football. D'ailleurs, votre idole, c'est Abel Enstra, grand joueur international néerlandais. Le football, Dave, vous l'avez pratiqué vous-même, mais pas de manière professionnelle, contrairement à ce que vous avez raconté des années après au sujet du centre de formation de l'Ajax Amsterdam, que vous auriez intégré. Mais en fait, vous avez un peu enjolivé l'histoire.
J'ai beaucoup menti.
C'est vrai.
J'ai pas fini.
Ouais. En plus, c'est un mensonge qui ne peut pas passer, parce qu'on voit bien qui était à l'Ajax. On voyait bien qu'il n'y avait pas vous.
Oui, non, en plus, ce n'était pas l'Ajax, c'était un club qui était beaucoup plus célèbre qu'Ajax. Avant la guerre, qui s'appelle AFC, Amsterdam Football Club, dans lequel jouait mon père. Et moi, j'y suis allé voir, j'avais 5-6 ans, après à déménager, j'ai joué dans un autre club. J'ai raconté n'importe quoi, j'ai dit que mon père était un chef indien, enfin des trucs.
Ah ben c'est ce que j'allais dire, c'est exactement ce que j'allais dire.
Bah, tant mieux, ça peut vous aider bonnes infos.
Voilà, vous aimez déjà raconter des aventures. Attends. Donc vous avez fait croire que votre papa est un descendant de Geronimo.
Oui, en fait, parce qu'il est vrai qu'il y a un chef indien qui est arrivé chez nous, dans la maison à Amsterdam. On lui avait loué une voiture qui s'ouvre parce qu'il avait une lance, etc., et des plumes sur la tête. Et ça, c'est vrai. Puis après, j'ai brodé.
La voiture qui s'ouvre, c'est une décapotable. Comme ça,
voilà,
il pouvait rouler, c'est décapotable.
Remercie, oui.
Voilà, c'est pour ça. Voilà. Parce qu'en général, les voitures, ça s'ouvre.
Dave, vous grandissez, vous aimez vous évader grâce à la lecture, piocher dans la grande bibliothèque familiale, des livres de science-fiction, par exemple. Et puis, il y a la musique. Vous en écoutez beaucoup, sans ambitionner à devenir chanteur, pas encore, mais vous aimez déjà qu'on vous regarde. Vous commencez à chanter en public dès l'âge de 14 ans, vous reprenez Elvis Presley. You ain't nothing but a hand.
Ça, c'est le vrai. C'est Elvis.
Ça, c'est Elvis. Hein, c'est, le vrai.
C'est le vrai.
Ah bah oui.
Et mon idole, c'est Roy Orbison. Il faut quand même le dire. Parce qu'Elvis, vous allez le dire
Là, j'allais parler d'autre chose aussi. J'allais dire dans un tout autre genre. Vous reprenez aussi Le Déserteur de Boris Vian.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre.
Vous savez qui a écrit ça?
Ben oui, c'est
Boris Vian.
Oui, il a dit Le Déserteur.
Vous avez pas, vous l'avez pas remarqué, l'incroyable ressemblance entre votre président, le mien aussi un petit peu, M. Macron, et Vian.
C'est vrai.
Regardez, mais ils se ressemblent.
C'est vrai, et plus ça va, plus ils se ressemblent.
Je ne sais pas si c'est bien pour lui, mais...
Non, parce que Maurice Vian est mort jeune, donc on ne souhaite pas ça au président.
Non.
Dave, après le bac, vous vous inscrivez en fac de droit sans grande conviction. Vous êtes étudiant à Amsterdam, libre, et vous vous mettez à chanter dans une pizzeria chaque week-end. Peu de temps après, vous enregistrez un premier disque en anglais. Vous avez 20 ans, pseudo Dave Rich, et la chanson s'appelle Girl of My Dreams. Girl of
my dreams. Vous allez trouver ça où?
Vous avez approuvé, hein.
Oh,
vous attendez pas à entendre ça.
Oui, très Elvis, oui.
C'est vrai que ça ressemble à Elvis Presley.
Ouais. En fait, j'avais pris comme nom, j'avais traduit, comme j'étais très pédant et au lycée classique, j'avais traduit mon nom en latin, David Rich, vous évitez. Et quand j'ai fait mon premier disque chez Phonogram à l'époque, et j'ai reçu une lettre, vous vous appelez Dave Rich. Et c'est Eddie Barclay qui a dit Rich, peut-être pas tout de suite, on a regardé juste Dave.
Dave, vous travaillez ensuite comme guide sur un bateau mouche à Amsterdam, toujours, et vous rencontrez un garçon nommé Joost, dont le projet est de faire le tour du monde en bateau. Vous êtes séduit par l'idée et vous partez.
Et par lui.
Et par lui. Et vous partez à bord du bateau. Le Justus pour un voyage sans retour à la poursuite de votre destin. Vous arrivez à Paris par les canaux. Vous amarrez le bateau sous le pont Neuf et vous vous mettez à jouer dans un club à Montparnasse avec votre guitare, puis dans une crêperie rue Saint-André des Arts, avant que l'on vous parle d'un endroit où on peut gagner de l'argent en chantant sur les terrasses. Vous prenez alors la direction de Saint-Tropez. Puis après l'été, vous retournez à Paris, seul cette fois, à la conquête des maisons de disques. Et vous réussissez à rencontrer Eddie Barclay. Il vous fait signer un contrat. Vous sortez une première chanson en français, Si je chante.
C'est sorti en mai 68, c'est bien choisi comme date, mai 68 pour sortir un disque.
Oh, ou pas, ça aurait pu être le tube de mai 68.
Ça aurait dû.
Ouais.
Dave, vous êtes donc en contrat avec la maison de disques d'Eddie Barclay. Vous continuez à sortir des disques, mais ça ne se vend pas très bien.
Du tout.
Pas du tout. Les années passent et tout va changer en 71. Vous faites une rencontre qui va bouleverser votre existence. Vous rencontrez Patrick Loiseau, non seulement l'amour de votre vie, mais aussi un auteur qui va tout changer. Cette même année, vous entendez parler d'une audition pour la comédie musicale Jésus-Christ Superstar.
Non, Godspell.
Ah, mais attendez, j'y viens.
Ah, pardon.
Mais difficile d'imaginer Jésus avec un accent hollandais, alors on vous conseille plutôt d'auditionner pour un autre projet biblique.
Pardon.
Et là, on parle de Godspell. Vous êtes pris, vous partagez la loge avec un certain Daniel Auteuil qui devient votre meilleur ami. Et le succès est au rendez-vous, à la fois populaire et critique. Cette aventure musicale dure 2 ans et Godspell, c'est ça. Dave, après la comédie musicale Godspell, vous vous essayez à l'adaptation en français de chansons anglaises. Patrick Loiseau transforme Sugar Baby Love des Roubettes en Trop Beau, avant d'enchaîner avec une autre adaptation, Runaway de Del Shannon, qui devient en français Vanina. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là.
Merci beaucoup, Lisa-Marie Marquez. Et cette chanson, Si je chante, c'est le premier titre du premier CD du coffret.
Eh oui, c'est vrai. Oui. Hein? Ça m'a beaucoup plu ce CD pour ça, parce qu'il y avait les chansons que j'avais faites chez Barclay. C'était à l'époque, j'écris paroles et musique.
Ouais.
Très mal,
ouais.
Tout de suite. Hein, ça a commencé à s'améliorer grâce à Patrick.
Je vais passer des extraits, donc on verra si c'est très mal ou pas.
Ouais,
mais en tout cas, c'était complètement barré. C'était complètement barré, certains titres.
C'est toujours un peu barré, d'ailleurs.
Ouais. Merci beaucoup, Lisa-Marie Marquez. Dave, vous restez avec nous. On va entendre ces titres. Culture Média continue. On est là jusqu'à 11h. On en est ravis. On marque une courte pause. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Dave, avec nous. On parle de ce nouvel album. Dave et Patrick Loiseau. Ça s'appelle Noce d'or. Ça rassemble 50 ans de chansons. C'est 4 CD. 90 titres, j'ai même compté, il y en a 88 pour 19,95 €.
C'est pas cher.
Ça nous met la chanson à 22 centimes. J'ai
quand
fait
même,
le calcul. Comment vous avez conçu, comment vous avez fait le choix?
J'ai un garçon qui s'appelle Mathieu qui est très fort pour ça. Il sait plein de choses. J'en ai amené quelques-uns aussi, des choses que que j'avais envie de voir en CD, parce qu'il n'existe qu'en gramophone.
Ouais.
Peut-être c'est exagéré.
Non, il y a des albums qui sont sortis qu'en vinyle.
Ouais.
Des chansons de vous qui ne sont pas, qui n'existent pas en CD.
Oui, c'est notamment les premières chansons que j'ai écrites à l'époque, donc pour Eddie Mitchell, pour Eddie Barclay, pardon. Et c'était très sympathique. Puis je trouve ça sympa que Patrick Loiseau, un jour, on a été invité par le directeur de la prod de à l'époque, ce qui est Universal maintenant. Et il a dit au début du déjeuner, Dave, désolé, c'est pas pour vous, c'est pour Monsieur Loiseau, j'ai envie de faire le disque avec lui. Je trouve ça très mignon. Parce que c'est vrai que Patrick, il est toujours beau, mais il était encore plus beau à l'époque, si possible.
Ah ben, il y a les photos.
Il y a les photos de vous deux. Prouver. Et puis, j'aime bien sa voix, mais il n'est pas fait pour chanter, il est beaucoup trop.
Ouais.
C'est-à-dire timide ou réservé, c'est autre chose. Quoi. Il faut quand même avoir envie de rentrer dans le tas quand on est sur scène. Quoi.
Ouais.
Ça, il ne sait pas le faire.
Mais il y a quand même, c'est le quatrième CD de cet album.
Chansons de lui qui sont très
jolies. Ce sont les chansons de lui. Alors, il faut raconter vos débuts. Lisa-Marie Marquez l'a raconté, vous signez un contrat chez Barclay en 67. Aucune chanson de marche qu'à Vanina, adaptation de ce tube des Roubettes Sugar Baby Love. Le plus dingue, c'est la réaction d'Eddie Barclay quand il entend la chanson chantée par vous. Racontez. Vous vous souvenez de ça ou pas?
Non.
Il dit « Ah, j'étais sûr que ça allait marcher ». Il y a une chose qu'il ne savait pas, c'est que vous étiez passé chez CBS.
Ah non, c'est pas ça l'histoire.
Ah, c'est quoi l'histoire alors?
L'histoire, c'est que j'ai signé chez Barclay le 7 décembre 1967. J'ai fait 10 disques chez lui qui n'ont pas marché. Et Jean-Jacques Chouplet, qui était le fils du PDG de CBS à l'époque, Jacques Chouplet, me connaissait et m'a proposé de venir chez CBS. Et c'est là où Eddie Barclay a dit dans la réunion de lundi, « Ah, enfin, il marche, Dave !» Ben non, c'était chez CBS.
D'accord. Ah, mais je pensais, j'avais compris qu'il pensait qu'il était, que vous étiez encore chez lui dans son écurie parmi ses poulains. Ouais. Alors, je l'ai dit, il y a les chansons des débuts. Et c'était, et c'est étrange, la chanson « Comme un grand ». Vous vous souvenez ?
Avec Jean-Pierre Bourtais, oui.
On écoute quelques notes.
J'ai souri comme un grand et j'arrive à cacher mes soucis comme un grand.
C'est quand même complètement barré. Vous avez fait la musique ou les paroles de ce titre ?
J'ai fait les deux. La musique avec Jean-Pierre Bourtais, qui est un compositeur de talent, comme son père Henri Bourtais. Et j'écrivais tout. J'ai commencé à écrire des chansons en hollandais, et puis après en français, en italien, en anglais. Tout aussi maladroit, évidemment, parce que je ne suis vraiment pas.
Non, mais là, c'est complètement fou comme musique, parce qu'on dirait presque quelque chose d'expérimental. Je ne vous le reproche pas, moi, c'est
oui,
la musique
c'est
que j'adore.
Kurt Weill, c'est Bertolt
Brecht. Mais on ne se dit pas, on ne va pas faire un tube avec du Kurt Weill, justement.
Oui, mais. Il ne faut pas chercher le tube. J'ai toujours expliqué le problème.
Ah ouais, mais Eddie Barclay, il voulait un tube.
Ah ben, c'est normal.
Bah oui, mais si c'est lui qui vous paye.
Il y a tellement de femmes qu'il fallait de l'argent.
Et j'adore quand vous prononcez, vous dites comme un grand. Vous ne prononcez pas encore bien la française
toujours
comme
pas
maintenant.
Bien. J'ai toujours un accent. Si, j'ai pas d'oreille, c'est normal.
Non, non, vous parlez très bien. Autre titre étrange, ça s'appelle Qui peut dire à Nathalie.
Alors ça, ça a très bien marché aux Pays-Bas. Et c'est pas étonnant parce qu'on irait du folklore allemand. Je veux dire, c'est pas marché. Et c'est une chanson de la base anglaise. Donc, absolument.
Vous chantez votre amour pour Nathalie. À l'époque, il était impossible dans le métier, en France, de dire que vous préfériez les garçons.
Ben, je sais pas, faire Vanina sur Albert ou Michel. Enfin, Michel, ça va encore parce que c'est faire fille et garçon. Mais c'est vrai que je n'ai jamais rien caché du fait que j'ai une nette préférence pour les garçons. Encore que j'aime bien les filles aussi, mais ça, c'est très mal vu, même par les homos. Ils n'aiment pas les bisexuels.
Vous le cachiez quand même, parce que moi, je me souviens quand vous étiez ce qu'on appelle un chanteur à minettes.
Oui.
Donc, les minettes ne savaient pas que vous n'aimiez pas les minettes, que vous préfériez les minets. Ce n'était pas quelque chose, c'était une notoriété publique.
Ah ben, c'est-à-dire que les maisons de disques...
Je ne parle pas de vous, je parle de l'époque. L'époque était totalement corsetée, et il ne fallait pas le dire, il ne fallait pas que ça sorte.
Ça n'a pas tellement changé, hein. Même s'il y en a quelques-uns aujourd'hui qui ont l'honnêteté de parler de leur vie secrète. Mais pourquoi ? Qui va demander Eddie Mitchell ce qu'il fait dans le livre ? Je veux dire, c'est un exemple, hein. Avec tout le respect pour ce que j'ai parlé de Mitchell. La vie dans la chambre... ne regarde que les personnes, les deux personnes au plus, s'ils veulent, qui sont dans la chambre. Mais moi, je suis toujours un peu exhibitionniste, comme beaucoup d'artistes.
Ouais. Moi, je me rappelle de votre coming out publicitaire. C'était une publicité très, très drôle. Oui, bien sûr. C'est qu'on voyait Dave qui disait, c'était pour du fromage, il disait, je préfère les dames. Ça vous étonne ? Je me souviens très, très bien de cette pub.
Ouais, moi aussi.
Voilà. Et elle avait changé quelque chose, le rapport à la perception.
Ben, à ce prix-là, j'ai refait Tampax, mais on ne me l'a pas proposé. On ne me l'a pas proposé.
Dave, je vous l'ai dit, il n'a pas perdu le sens de l'humour. Il est avec nous, on parlait de littérature avec vous. Nicolas Carreau qui arrive m'a dit quelque chose. Il a une émission, il va visiter la bibliothèque de gens célèbres. Il m'a dit, la plus belle que j'ai vue, la meilleure visite que j'ai vue, c'était avec Dave. On en parle, mais aussi de beaucoup d'autres choses dans Culture Média. A tout de suite.
9h-11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Dave, il y a cet album qui sort, Noce d'or, c'est publié par Marianne Melody. C'est un éditeur un peu particulier. L'album, il n'est pas, j'ai regardé, il n'est pas sur Apple Music, c'est un choix. Il faut vraiment acheter l'album si on veut l'entendre. C'est un choix de ne pas être sur les réseaux, sur le streaming.
Oui, en revanche, on peut l'acheter par Amazon, puisque vous parlez chiffres.
Oui, bien sûr, bien sûr.
On peut l'acheter sur Amazon. Au début, non, ils font que... Alors, cette maison de disques s'occupe surtout... Il y avait d'autres maisons qui faisaient ça avant, d'ailleurs, des produits d'avant, on va dire. Mmh. Donc, on peut trouver, là, ils sont sur Marie-Myriam, ou sur Il était une fois, ou des choses pas tout à fait actuelles. Donc, tous les vieux chanteurs traités parfois de ringards sont contents qu'ils ont une actualité, c'est évident, ça en fait partie. Et celui qui s'occupe de ça, il s'appelle Mathieu, il aime vraiment ça. Grâce à lui, j'ai vu Régine trois semaines avant la fin de sa vie, parce qu'on était les voir dans la maison où elle était.
Et c'est assez rare pour signaler, vous le remerciez même dans la pochette du disque, dans les notes intérieures, ce Mathieu. Nicolas Carreau, je l'ai raconté, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Je l'ai raconté, vous avez, dans votre émission, vous avez une séquence où vous visitez les bibliothèques des gens, et vous dites, ma séquence préférée, ça a été avec Dev. Elle est comment, la bibliothèque de Dev que vous avez vue pour La Voix et Livre?
C'est surtout que je m'attendais à rien de particulier. J'étais allé chez Dev parce qu'il chante du côté de chez Swan. Je me suis dit, il aime Proust.
Ouais.
Je suis arrivé, il m'a dit Proust, pas tellement.
Pas plus que ça.
Mais par contre, il faut qu'on parle de Paul Divoy. Je lui ai dit,
moi, je ne sais pas qui est Paul Divoy. Voilà. Alors moi, je ne sais pas qui est Paul Divoy.
Il m'a dit, mais Paul Divoy, il était aussi connu que Jules Verne à l'époque. Tout le monde l'a oublié. Moi, j'ai des éditions originales, illustrées et tout.
C'est pas vrai. Racontez. Alors,
ouais, attends, ouais, un mot. Il vient de la raconter. Je ne peux pas le faire mieux. Surtout qu'il le fait en très bon français.
Ouais, mais il raconte des histoires à la Jules Verne.
On peut dire ça. C'est des histoires qui passent. Là, ce que j'ai le plus aimé, il y a 4 volumes qui jouent en Extrême-Orient. C'est assez, ça commence aux Pays-Bas, d'ailleurs. Mais Paul Divoy était aussi célèbre à l'époque de Jules Verne. C'était vraiment un auteur extraordinaire qu'on a oublié, malheureusement.
Oui, mais parfois ça passe pas la rampe. Vous le relisez toujours?
Il m'arrive pas mal de relire des livres qui m'ont plu, oui. Je suis très science-fiction. Je peux relire tout ce qui est la série de Dune, qui est devenue un film, mais qu'il faut vraiment lire.
Bah, pareil, moi j'aime beaucoup la science-fiction. Quand j'ai vu votre partie de la bibliothèque consacrée à la science-fiction, il y a des bouquins dont j'avais jamais entendu parler. C'est de la science-fiction hyper pointue, ce qui veut dire en fait de la philosophie métaphysique à ce niveau-là de science-fiction, parce que ça peut être très vite
très ardu. Surtout Van Vogt, parce que c'est exceptionnel.
Et surtout, moi, le principe, c'est de dessiner un portrait en creux par les livres de la personne chez qui je vais. Et là, je lui dis, est-ce que vous avez des livres en néerlandais? Il me dit non. Parce que quand j'ai quitté la Hollande, j'étais sur un bateau avec un copain, il y avait tous mes livres en néerlandais et le bateau a coulé.
Ouais.
Et donc ils sont au fond de l'eau et je me suis reconstruit avec les livres en français.
Tout à fait.
Donc c'était juste le symbole de votre vie, votre bibliothèque.
Oui, le bateau qui coule, c'est tout à fait ma vie. Je vous remercie.
La Renaissance.
Fluctuat net mergitur.
Bravo.
Un roman, une poche, justement, on peut le prendre dans un bateau, ce livre, Nicolas, ce matin. Vous nous parlez de...
Vous reconnaissez Mr. Bojangles de Nina Simone, effectivement, qui a donné le titre En attendant Bojangles d'Olivier Bourdeau. Énorme succès il y a quelques années. 700 000 ventes, je crois. C'est énorme. Son troisième roman, Florida, sort en format poche cette semaine chez Folio. C'est l'histoire d'Elisabeth Verne. On est à Miami, en Floride. Sa mère, pour ses 7 ans, lui a fait un cadeau magnifique. L'emmener participer à un concours de Minimis. Bon, elle ne savait pas que ça existait, mais elle suit. Ça ne dérange pas plus que ça, mais elle s'attendait à autre chose pour son anniversaire quand même. Enfin, elle gagne. Alors, sa mère décide d'en faire une championne de concours. Or, Elisabeth a, malgré cette première victoire, un physique de deuxième. C'est ce qu'elle dit. Et le calvaire commence pour elle, pour une raison très précise. Olivier Bourdeau.
C'est un documentaire que j'ai vu il y a 7 ans qui m'a laissé un sentiment... très particulier, au-delà du folklore, des mères qui poussent leurs enfants sur les estrades. Et j'ai eu du mal à mettre le doigt sur ce sentiment. Je me suis dit, quelle horreur d'être jugé uniquement sur son physique quand on est enfant. Voilà à peu près une des seules choses sur lesquelles on n'a absolument aucun pouvoir. Voilà, elle est jugée sur quelque chose qu'elle ne peut pas modifier. Et par conséquent, elle va nourrir... le mépris d'elle-même, le mépris des jurys, des jurés, et le dégoût de sa mère. Voilà, c'est ce qui entraîne... cette victoire est une malédiction qui va entraîner tout un tas de défaites.
Et ça ne va pas aider Elisabeth à aimer ça, j'imagine.
Oh non, c'est de plus en plus dur. Sa mère devient de plus en plus dingue avec cette histoire. Son père, qui se rend bien compte que ça ne va pas, ne fait rien, ne dit rien. Mais sa mère refuse de baisser les bras. Elle va tout faire, quitte à faire opérer sa fille même, dont une oreille est très, très, très légèrement décalée. Mais tout est bon pour qu'elle remonte sur la première marche du podium.
Et la petite, la fille, ne se rebelle pas.
Oh si. En fait, les concours de Minimis, c'est la première partie. Très travaillée. D'ailleurs, il y a des histoires vraies dans cette fiction, comme une des mères qui a fait avaler des œufs de ténia à son enfant pour qu'elle maigrisse. Histoire. Il y a les différents types de participants, les touristes, les amateurs, les pros, c'est à la fois drôle et terrifiant. Enfin, toujours est-il que oui, un jour, Elisabeth va se rebeller, elle va rompre avec tout ça radicalement. Faudra lire pour savoir, mais disons qu'elle va utiliser son sens du spectacle. Et ensuite, c'est le roman d'une autodestruction et d'une vengeance aussi.
Ça s'appelle Florida, Olivier Bourdeau, chez Folio, format poche et non pas en livre de poche. Merci beaucoup, Nicolas. Vous êtes encore un grand lecteur, Dave ?
Oui, comme ça fait deux fois, on en parlait un petit peu au début, que je passe à l'hôpital, et je me rends compte qu'à l'hôpital, on ne lit pas, on ne fait rien. Enfin, moi, en tout cas, on ne fait rien. Mais je suis content de retrouver des livres. Oui, c'est très important, puisque vous parliez de... Vous passiez Nina Simone, ça me fait penser à James Baldwin. Je ne sais pas si vous connaissez James Baldwin. Il a fini sa vie en France, mais c'était un noir américain. Non seulement il était noir, mais en plus, il était gay. Enfin, quand il n'est pas toujours gay d'être homo, mais il était ça aussi. Et ses livres sont exceptionnels. Donc, si dans les auditeurs et les auditrices d'Europe 1 voulaient lire de bons livres, lisez du James Baldwin. Voilà, entendu.
Ah, James Baldwin, pardon. Oui.
C'est son accent hollandais. Moi aussi, j'avais compris, mais j'avais peur de dire une bêtise.
Ah, vous connaissez
James Baldwin. Mais nous, on dit James Baldwin ici. Exactement. Et vous lisez en anglais
aussi, ou
en français? Il est également en anglais, en français, mais pas en néerlandais, puisque sa langue maternelle va comprendre Dave, incompréhensible à comprendre. C'est pour ça qu'on vous aime, Culture Média. Continue, à tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
J'irai bien refaire un tour du côté de chez soi, revoir mon premier amour qui me donnait
rendez-vous. Du côté de chez soi, c'est pour faire plaisir à Nicolas Carreau qui s'attendait à trouver tout Proust dans la bibliothèque de Dave. Il y a tout Proust, mais aussi d'autres auteurs moins connus comme James Baldwin, vous parliez. C'est quoi vos envies maintenant, Dave? Vous avez fait de la télé, vous avez fait de la chanson, il y a des concerts qui vont arriver. Ouais. De quoi vous avez envie?
J'ai adoré, évidemment, les concerts, ça bat tout. Être sur scène, cette espèce de nirvana de bonheur qui vaut absolument tout. On n'a pas de soucis. Donc ça, c'est la première chose que je vais surtout recommencer à faire le plus souvent possible. Mais j'ai un projet avec Patrick Mazot, juste avant d'avoir cette chute, c'était de commencer à essayer d'écrire avec lui. Donc moi, la musique, comme j'en ai fait quand j'étais beaucoup plus jeune. J'ai aussi un autre projet, c'est de faire un album avec que des chansons mélancoliques. Renaud dit lui-même qu'il est mélancolique et ça, pas toujours positif, évidemment, mais il y a des jolies chansons mélancoliques.
Vous le feriez avec lui parce que c'est lui, Renaud, qui avait produit votre dernier album, Souviens-toi d'aimer.
Oui, mais je ne veux pas le ruiner deux fois.
Ah, vous l'avez ruiné? J'allais vous demander ça parce que vous avez payé un enregistrement en Belgique, studio ICP, qui est un très grand enregistrement, un orchestre de 40 musiciens. Est-ce qu'il a retrouvé sa mise de départ ou
pas? Oui. Sinon, je n'aurais pas osé en parler.
Il n'a pas perdu d'argent.
Non.
D'accord.
Et j'espère que son album qui vient de sortir, qui s'appelle Metac, va marcher beaucoup mieux encore que le mien, évidemment.
Grosse expérience télé du côté de chez Dave. Vous avez fait les commentaires de l'Eurovision. Vous avez été membre du jury de La France Incroyable Talent. Vous avez d'autres envies de télévision?
Je travaille un peu pour une petite station qui s'appelle Mélodie. Ouais. Dans laquelle
on va les recevoir bientôt, qui passe de la chanson française.
Ah oui, et ils sont branchés années 50, 60, 70, ouais. 80, je pense. Peut-être pas 90. J'ai fait une émission pour eux qui passe pas mal, ça passe et ça repasse, qui s'appelle Les parents du petit écran, dans lequel je traitais. Mmh. Et ça m'a fait passer par Lina, donc c'est intéressant de l'avoir écouté, de voir le vieux truc d'avant, quoi. Ouais. Et moi, c'est souvent allumé chez moi quand je regarde pas la télé. Et tout d'un coup, je regarde, il y a une vieille émission, pas mal de 4 ans dans lequel je suis pas narcissique à ce point.
Ça allait être ma question, vous aimez vous voir ou pas?
Je jette, quand j'ai fait une télé, je jette toujours un coup d'œil
non,
pour
mais vous voir
éclairer.
Voir je parle de ça.
Ouais. Ah, l'ancienne.
Quand vous tombez sur Télémélodie, que vous tombez sur vous en 74, avec des t-shirts moulants.
Oui, des cols, comment on appelle
L'école Pelle à Tarte.
Pelle à Tarte, je cherche le nom.
L'école Pelle à Tarte, elle est juste au corps.
Oui. Non, mais c'est dur de se voir. Quand on n'aime pas les photos, un photographe un jour me dit, si tu n'aimes pas les photos, garde-les, dans 10 ans, tu vas l'aimer. Il a vraiment raison.
Et une émission de cuisine, parce que vous avez écrit un livre de cuisine.
Oui. Pour le moment, quand j'aime ni goût ni odorat, la cuisine m'énerve un peu, et la bouffe aussi. Mais non, je serais tenté de penser à un album quand même plus tôt, parce que c'est quand même vraiment ma vie. Mais la télévision est formidablement intéressante, parce que je me souviens d'avoir reçu Vianney, qui était pas encore connu, et il voulait chanter. Et maintenant, je dis, fais pas ça, personne ne peut le faire à part lui, et peut-être Nina Simone. Et il l'a fait, et c'était très bien. Donc, quand même, on ne peut pas se tromper.
Vous allez faire des galas? Vous allez aller sur les bateaux encore en croisière, faire des galas?
Ah, ça en est, j'y suis trop cher maintenant. Je pense.
Attendez, je veux dire pourquoi je dis ça. Parce qu'il a fait une sacrée confidence à Gala. Il a dit, dans les années 80, dit Dave, j'étais dans le creux de la vague. J'en ai profité pour faire beaucoup de croisières. Je partais pour 8 jours et je faisais des concerts. Je revenais avec l'argent que j'avais gagné au noir. Et il a dit, vous avez ajouté, je peux le dire maintenant, il y a prescription.
C'est vrai, je vous remercie d'ajouter ça. Parce que là,
c'est dans Gala. Non, il y a prescription maintenant.
Non, j'ai fait une centaine de croisières, c'est vrai que j'adore.
C'est vrai, ouais. Black. Et le fisc vous a contacté depuis ou pas?
Non, il me cherche. Non, mais.
Vous êtes fou de dire ça. Le modèle, c'est Hugo Frey.
Ah ben évidemment, c'est-à-dire que Hugo Frey, qui a 10 ans de plus que moi, je me nomme.
93 ans maintenant. 93 ans sur scène. Ouais.
Ça, c'est exceptionnel. Dans les ventes de disques, c'est Henri Salvador, qui est quand même très, très âgé, a vendu 4 millions d'albums.
Ouais, et 1 million avec son album Chambre avec vue à 84 ans, ce qui était assez exceptionnel. Je vous interromps parce qu'il est 10h55, l'heure des stories, dit merde, de Marc-Antoine Lebray. Tous les stars... Non, il ne dit pas ça pour vous, il dit parce qu'il n'aime pas être interrompu. Tous les jours, il y a des stars qui viennent dans l'émission vous rencontrer. Aujourd'hui, Dave, c'est celui avec qui vous avez animé l'émission Domino Day. Mais oui, Denis Brognard.
Ah, en effet, mon cher Philippe, et j'en garde le meilleur souvenir de ma carrière, car entre Koh-Lanta et Ninja Warrior, ça fait du bien de présenter une émission où les candidats ne sont pas en slip.
Mika, le chanteur, est là pour vous.
Cocu, Dave. Comme toi, je chante très aigu. I could be violent in the sky. Je sais pas comment tu fais, mais moi, mon secret, c'est d'avoir été coach dans The Voice. Parfois, quand je me retournais, je découvrais un candidat vraiment très, très moche. Et ça sortait naturellement. Ah! Bon, et sinon, j'ai un autre secret aussi pour atteindre des notes super high, c'est de réécouter mon deuxième album. Ah ! Love Today ! Voilà.
Dave, vous avez participé à Fort Boyard. Vous avez malheureusement perdu. Vous battiez pour une association qui forme des chiens pour enfants aveugles. Ouais. Et Olivier Mine, le présentateur, ne s'en est toujours pas remis.
Et
Olivier, bonjour.
Oui, bonjour. Et il n'y a pas que moi. Je pense surtout que si vous aviez gagné, Dave, vous auriez pu changer la vie de centaines d'enfants aveugles. Mais je ne suis pas là pour vous faire culpabiliser. Même si le petit Kevin, 8 ans, a écrit une lettre très touchante à France 2. Pourquoi Dave a ruiné ma vie? Mais encore une fois... Je ne suis pas là pour vous faire culpabiliser. Mais si vous aviez gagné, vous auriez pu donner le sourire à tellement de familles à qui la vie n'a pas fait de cadeau. Enfin, vous êtes quand même reparti avec 3000 euros offerts par la production et grâce à cette somme, l'association a pu s'acheter des frolics pour les chiens d'aveugles. À défaut des enfants, Dave, vous avez redonné le sourire à des labradors, mais je ne suis pas là pour vous faire culpabiliser.
Vraiment pas. Et Geneviève de Fontenay est en colère contre vous, Dave.
Bah oui, Dave, hein? Vous avez déclaré qu'à un certain âge, on n'est plus sexuel du tout. Et mon cul, c'est du poulet? Hein? Moi, j'aime les bonnes levrettes qui claquent, monsieur Dave. Bon, le hic, c'est que je m'endors avant. Hein, il faut que je retire ma couche confiance. Mais bon, je suis open pour du sexe oral. Hein. Bon, la dernière fois, mon dentier est resté accroché. Bref. Allez, moi, je vous laisse. J'ai une demande d'interview pour insulter Sylvie Tellier. Bonne journée.
Merci beaucoup, Marc-Antoine Lebray. Je vous dis à demain. Merci beaucoup, Dave. Je rappelle le titre de l'album. Dave, Patrick Loiseau, Noce d'or. 50 ans de chanson, 88 titres pour 19,95. Vous vous souvenez du prix que ça fait à la chanson? 22 centimes. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. On sera avec des voix, oui. Les voix de Sangoku, de Oui Oui, de Dragon Ball Z. Oui.
Génial.
Brigitte Lecordier qui fait ces voix-là. Et la voix de Titeuf Spiderman. Il s'appelle Donald Renew. Ils seront tous les deux dans ce studio. Et puis le roi de la soul et du groove, Ben l'Oncle Soul, maintenant on l'appelle plus que Ben. C'est plus court d'avoir une syllabe à son nom. Il y en a un qui connaît ça, il s'appelle Dave.
S'il va se réveiller, Ben l'Oncle Soul, s'il sera là demain, effectivement.
Il sera là, parce que la première fois, il s'était pas réveillé.
Il s'est pas réveillé, donc bon, on verra bien.
Juste après le flash, Julia Vignali, Mélanie Gomez, bien fait pour vous, le programme du jour, les filles.
Eh bien, Philippe, on va s'intéresser aux capacités extraordinaires des personnes atteintes de dyslexie. Mika, c'est son cas, il en a parlé publiquement, il est atteint de dyslexie.
Mais pas du tout.
Pas du tout, voilà. Vous verrez que finalement, ce trouble peut se révéler être une force, on détaillera tout ça ce matin.
Et puisque vous aimez les camoulox, on va également parler beauté, comment bien se maquiller en été. Et puis on parlera aussi lecture jeunesse avec Nathalie Le Breton et elle nous donnera bien ses conseils de livres qui traitent de l'adoption.
Voilà la jeunesse, voilà. Très bien.
Et il y a les vacances qui approchent. Merci beaucoup, à demain, bonne journée à l'écoute d'Europe 1.